Bonjour et bienvenue à votre émission Au rythme de l'Église. Je m'appelle Mario Ringuette et je serai l'animateur ce matin. On a comme invité ce matin Mgr Claude Champagne. Tout d'abord, Mgr, bonjour et bon matin.
Bonjour Mario.
Mgr, l'année pastorale 2024-2025 est bien lancée et commencée, puis on a le bonheur de vous savoir avec nous encore pour un certain temps.
Ouais, ben, ils sont toujours à la recherche d'un successeur. Mais des fois, ça ne va pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Assez pour me dire qu'au lieu de laisser le bouton sur pause, comme je l'ai fait presque depuis l'automne dernier, je pourrais repaiser sur le bouton play. Mm-hmm. Au moins pour pas qu'il y ait des décisions à prendre et les retarder, ça nuit à notre Église diocésaine. Donc, on m'a dit, écoute, tu peux prendre les décisions qui sont à prendre et assurer que le diocèse continue sa marche. J'avais pris l'exemple du train il y a 15 ans, que je montais dans le train pour être chef du train avec vous autres. Bien là, pour pas ralentir le train, on me dit, tu continues avec tes gens de prendre les décisions jusqu'au moment où le nouveau chef de train sera prêt à prendre le contrôle, mais je ne sais pas quand. Alors, à un moment donné, je pensais que ça pouvait être demain. Là, je réalise que c'est peut-être plus après-demain. Bon, alors pour le moment, ça veut dire que le conseil de l'évêque s'est réuni déjà, des choses qu'on ne faisait pas depuis janvier. Alors là, doucement, on va renouveler le conseil des prêtres. La vie va reprendre pour essayer de répondre aux défis puis aux besoins qu'on rencontre maintenant.
Donc, certaines nominations qui devaient avoir lieu, bien, vous allez les faire là, pour continuer le
travail. Oui, ben de toute façon, ça va être des nominations peut-être les membres des équipes d'animation pastorale, des choses comme ça. Il y a peut-être un employé ou l'autre qu'on avait retardé de regarder à engager quelqu'un, que l'on va procéder. Alors, on va essayer de compléter nos équipes et de s'assurer de la relève, même en termes de prêtres. Mais là, ça, c'est plus à long terme.
Oui, oui, oui.
Mais je te dirais que je pose des gestes qui vont dans ce sens-là.
Et puis, on vient d'en parler un petit peu, mais pour vous, ça serait quoi la suite avec nous?
Ben écoute, c'est de relancer l'année, étant toujours dans communion avec toute l'Église, c'est-à-dire que on dit on est une Église synodale. Il y a encore des choses qui s'en viennent au mois d'octobre à Rome, mais il y a déjà des intuitions qu'on peut mettre sur pied. Cette idée, par exemple, de la conversation dans l'Esprit-Saint, de dire, quand je parle avec des gens en Église, de reconnaître que chacun peut être porte-parole de l'Esprit. Donc, ça change ma qualité d'écoute. Donc, écouter ce que chacun voit, être capable de réagir, on ne réagit pas négativement, on accueille tout ce que les gens disent, qu'est-ce qui se dégage de ce qui s'est dit, est-ce que l'Esprit-Saint sera en train de nous dire quelque chose? Alors, développer cette attitude-là, de reconnaître que tout baptisé peut être l'instrument de l'Esprit. On l'a tous reçu au baptême, et donc c'est important d'être à l'écoute de tous. Tous ceux qui veulent s'engager, qui apportent leur contribution à la vie de notre Église. Et le synode est là pour dire, dans le contexte changeant dans lequel on vit, comment on peut remplir notre mission de toujours, de proclamer la bonne nouvelle de l'amour inconditionnel de Dieu pour tous et toutes. C'est la raison d'être de l'Église, dans le fond.
Donc, on est tous des émetteurs, mais il faut être capable d'être des receveurs aussi.
Oui, parce que la mission est confiée à nous ensemble. C'est pas seulement une personne, mais c'est ensemble qu'on porte la bonne nouvelle, qu'on la vit d'abord. Quand on la vit, bien, on démontre ce que ça veut dire entre nous de vivre cet amour-là, et ensuite d'en être témoin pour le reste de nos frères et sœurs.
Toujours sous l'éclairage de l'Esprit-Saint.
Bien, absolument.
Un
oui.
Discernement.
C'est ça, c'est ça.
Et puis, vous avez glissé un mot tout à l'heure qu'il va y avoir quand même un grand événement qui va se passer en octobre prochain à Rome.
Oui, le processus synodal a eu une première grande rencontre en octobre dernier, mais c'est une rencontre à deux volets. Alors, en octobre prochain, encore là, des gens d'un peu partout à travers le monde, des 6 continents, des évêques, des prêtres, des laïcs hommes et femmes, vont se retrouver pour parler des grandes questions qui touchent la vie de l'Église et sa mission maintenant.
Parce qu'on peut dire que c'est la dernière rencontre officielle, mais on peut dire que c'est comme un lancement aussi pour l'avenir.
Oui, sauf que, tu vois, cette fois-ci, on va voter des résolutions. Okay. ça va être remis au pape. Et le pape, on dit pour nous les catholiques, l'évêque de Rome, c'est celui qui, à la toute fin, vient trancher. Dans la prière, dans l'écoute de l'Esprit-Saint, normalement, le pape devrait nous écrire ce qu'on appelle une exhortation post-synodale. Donc, il va prendre les conclusions du synode et de là, il va nous dire, voici à partir de maintenant, dans quelle direction notre Église s'en va pour être fidèle à sa mission. Un peu comme les apôtres à Jérusalem, il pourra dire, l'Esprit-Saint et nous, nous avons décidé que ceci et cela seront les façons de faire pour être fidèle à notre mission de toujours.
Et puis ça, tout ça après la grande consultation qu'il y a, parce que toutes les fidèles ont été consultées.
Oui, c'est un processus qui date depuis déjà 2-3 ans, et les gens d'Edmundston ont eu leur mot à dire, on a contribué, et ça a été entendu dans l'Atlantique, dans le Canada, dans l'Amérique du Nord, ça s'est rendu à Rome, et le dernier texte qui est comme l'instrument de travail tient compte un peu de tout ça, tout ce qui est remonté sur les 6 continents, et en même temps de réaliser... On est très différents. Les préoccupations sont pas les mêmes selon les cultures. Et là, de dire, oui, unité de l'Église, mais dans la diversité des contextes socioculturels. Alors, c'est un peu ça, d'apprendre à dire, oui, il y a des choses qu'on va vivre chez nous qui ne seront pas vécues nécessairement de la même façon chez nos frères en Afrique ou en Asie.
Parce que à la table de concertation, qui a travaillé beaucoup sur ces documents-là, avec Sœur Edna, entre autres. Je sais que pour elle, c'est vraiment un instrument diocésain qu'on pourra utiliser pour nous ici.
Oui, parce que cette conversation dans l'esprit, la question de la formation des baptisés, je pense qu'il y a une insistance dans le dernier document. Alors, de se demander comment nous, dans un petit diocèse, loin des grands centres de formation, comment on peut se donner cette formation? On reconnaît le Christ, on l'aime, mais parce qu'on l'aime, on veut le connaître plus. Alors, comment connaître plus le Christ, son Église, tout ce que ça comporte? Alors, je pense que ça va être un de nos grands défis, parce qu'on n'a pas de centre de formation comme Montréal, Ottawa, Québec, se donner des moyens pour le faire.
On a l'avantage d'avoir maintenant les nouvelles technologies par Internet.
C'est vrai, mais en même temps, à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'interaction entre les personnes qui écoutent. Peut-être qu'on peut avoir une dimension... sur Internet, mais qu'à un moment donné, des gens puissent ensuite réagir, partager, tu sais, de sentir que la communauté chrétienne, il faut sentir le coude à coude. C'est pas totalement la communauté chrétienne quand on est réduit au virtuel. Alors oui, pendant la pandémie, il a fallu, à certains moments. Mais maintenant qu'on peut se retrouver, c'est pas la même dynamique d'être ensemble, à prier, puis à partager, puis à creuser des questions.
Ça a quand même certaines limites.
Absolument. Ouais. Alors, c'est positif, on veut s'en servir, mais on sait que c'est pas toute l'affaire.
Et puis, comme dernière question, Monseigneur, suite à ce synode-là, est-ce qu'on doit s'attendre à des grands changements dans l'Église ou ça va être juste un ajustement, comme on pourrait dire?
Ben écoute, on va être fidèle au cœur de l'Évangile toujours. Je me dis en fin de semaine, là, je crois en Dieu. Ben, je crois en Dieu, il va rester le même. Ça fait depuis les conciles de Nicée, Constantinople qu'on a. Donc, ça date de 1400, plus de 1500 ans qu'on a ces symboles des apôtres-là. On va toujours les garder au cœur de notre foi. Ça dit un peu le cœur de la foi. Maintenant, la façon de le dire, la façon de le présenter, tient compte du langage d'aujourd'hui. T'sais, je donnais l'exemple, dans le dictionnaire Larousse ou Petit Robert, à un moment donné, on va avoir un mot, on va dire « mot vieillissant ». Ça veut dire qu'on ne s'en sert plus beaucoup dans notre langage d'aujourd'hui. Puis il y a des nouveaux mots qui apparaissent. Alors nous, comme Église, c'est d'avoir des mots contemporains pour dire la foi, la bonne nouvelle de toujours.
Donc, ça va être la continuité.
On va toujours être fidèle. T'sais, on pourrait dire la grande tradition avec un T, on va toujours y être fidèle. Les petites traditions qui se sont ajoutées au cours des siècles, on les regarde avec un esprit critique pour dire, est-ce qu'ils sont encore positifs puis ils nous aident à vivre notre foi puis à l'annoncer? S'ils sont plus en mesure de faire ça, il est possible qu'on fasse de d'autres façons. Ouais. C'est un des papes du début de notre siècle qui disait, j'aime tellement les traditions que j'en crée des nouvelles.
Ben, c'est ce qui conclut notre émission pour aujourd'hui, Monseigneur.
Ça me fait plaisir,
je vous remercie beaucoup de l'éclairage puis de votre vision pour l'avenir avec nous.
Je suis avec vous pour un temps. Oui. Je peux pas vous dire jusqu'à quand, mais bon, écoute, je vais être là de tout cœur jusqu'à temps que la relève soit assurée.
Donc, on vous souhaite un bon début d'année pastorale avec nous.
Un gros merci.
C'était votre émission Au rythme de l'Église. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.